Vous écoutez, on lit pour vous.
Mieux comprendre le traitement auditif pour soutenir les personnes malentendantes. Un texte de Jeanne Choquette, paru le 17 avril 2025 dans le magazine Sourdine. Victoria Douda, PhD, professeure adjointe à l'École d'orthophonie et d'audiologie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, chercheuse à l'IURDPM, Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal, et au CRIR, Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain, mène une étude sur le traitement auditif ou, en d'autres mots, une étude sur la détection des périodes de silence dans la parole. Jeanne Choquette l'a rencontrée pour en apprendre davantage sur cette recherche et sur les bienfaits que les personnes malentendantes pourront en retirer. Voici la transcription de cet échange. Jeanne Choquette. Victoria, tu m'as parlé d'un projet de recherche fascinant qui pourrait avoir des retombées importantes pour les personnes malentendantes. Peux-tu nous en dire un peu plus? Victoria Douda, avec plaisir. En fait, notre programme de recherche comporte trois volets ou phases. Tous sont centrés sur un même thème, le traitement auditif. Pour préciser, le traitement auditif, ce n'est pas simplement entendre. C'est la capacité du cerveau à traiter les sons de manière à en comprendre le sens. On évalue souvent l'audition par les seuils auditifs, le plus petit son qu'une personne peut percevoir. Mais cela ne nous dit pas si le cerveau est capable de capter les subtilités des sons qui sont essentielles pour comprendre la parole. Jeanne? Ah, ça me parle parce que souvent les personnes malentendantes disent « j'entends mais je ne comprends pas ». C'est comme si les mots devenait incomplet. Victoria, exactement. Et ce que peu de gens réalisent, c'est que la parole est structurée par des silences, même très brefs. Ces pauses naturelles servent à découper les mots et les phrases. Notre cerveau les utilise pour comprendre le langage. Si ces silences sont mal perçus ou mal traités, la compréhension devient beaucoup plus difficile. Jeanne, les silences? Tu veux dire dans les phrases? Peux-tu nous expliquer davantage? Victoria, oui. Ce sont de minuscules pauses, souvent de quelques millisecondes, qui se glissent entre les mots ou même entre certaines syllabes. Par exemple, dans la phrase « Maman donne à Paul une carte du zoo », il y a une pause naturelle entre Paul et une carte. On ne s'en rend pas compte, mais ces pauses sont indispensables pour que notre cerveau segmente et interprète la phrase. Si on les supprime ou si on les rend trop brèves, l'intelligibilité chute considérablement. Jeanne, donc, pour une personne malentendante, c'est comme si ces petites pauses n'étaient plus perceptibles. Victoria, oui, les recherches montrent que les personnes malentendantes ont souvent besoin de pauses plus longues pour bien percevoir les segments de la parole. Si ces pauses sont trop brèves, leur cerveau ne parvient pas à les détecter, ce qui nuit à la compréhension. Et malheureusement, les appareils auditifs actuels ne tiennent pas compte de cette réalité dans leur programmation. Jeanne, c'est fascinant. Est-ce que ton projet vise à pallier cette lacune? Victoria, c'est exactement l'objectif. On a développé, dans mon laboratoire, un test passif pour évaluer cette capacité qu'on appelle le traitement temporel auditif. L'intérêt de ce test, c'est qu'il ne nécessite pas de réponse verbale ou comportementale. on mesure directement l'activité cérébrale à l'aide d'électrodes pour savoir si le cerveau réagit à ces pauses insérées dans du bruit. Jeanne, donc la personne n'a rien à faire. Pas besoin de répondre. Victoria, non. Contrairement aux tests cliniques traditionnels, où l'enfant ou l'adulte doit dire s'il entend un ou deux sons, ici, on observe le cerveau en action. Cela nous permet d'évaluer la capacité de traitement sans dépendre de la concentration, du langage ou de la compréhension de consignes complexes. Jeanne, et cette capacité est vraiment différente chez les personnes malentendantes? Victoria, oui. Selon la littérature, les personnes malentendantes ont des seuils plus élevés pour détecter ces pauses. Autrement dit, il leur faut des silences plus longs pour en percevoir la présence. Et quand ces pauses sont trop brèves, cela affecte leur capacité à discriminer les mots, surtout en contexte bruyant. Pourtant, comme je le disais, les appareils auditifs ne sont pas encore conçus pour compenser ce besoin. Jeanne, donc, vous testez l'idée que si on modifie les appareils auditifs pour mieux respecter ces silences, la compréhension pourrait s'améliorer? Victoria, c'est l'hypothèse que nous voulons explorer dans la troisième phase de notre projet. Mais avant cela, nous avons déjà terminé une première phase où nous avons comparé les jeunes adultes et les personnes âgées. Les deux groupes avaient une audition normale, mais nous avons tout de même observé que l'âge influence la capacité de traitement auditif, surtout quand les pauses ressemblent davantage à celles de la parole réelle. Jeanne, donc, même sans perte auditive, l'âge peut jouer un rôle? Victoria, absolument. Et c'est important, car cela montre que la compréhension de la parole ne dépend pas uniquement de l'audition. La seconde phase, qu'on vient de terminer, consistait à reproduire ce test à travers un haut-parleur pour s'approcher davantage des conditions naturelles. Et maintenant, dans la troisième phase, on travaille enfin avec des personnes malentendantes et des appareils auditifs programmés différemment. Jeanne, concrètement, qu'est-ce que vous allez tester avec les appareils? Victoria, on va proposer deux types de programmation, une standard, comme celle utilisée habituellement, et une modifiée, qui introduit des périodes de silence plus longues ou mieux mise en valeur. On veut voir si cette deuxième version permet une meilleure compréhension de la parole, surtout dans le bruit. On espère que ces ajustements pourraient améliorer la discrimination des mots. Jeanne, c'est vraiment passionnant. Ça pourrait changer la vie de beaucoup de gens. Victoria, on l'espère. L'objectif à long terme serait d'intégrer ces paramètres dans la conception des futurs appareils auditifs pour les rendre plus adaptés aux besoins réels des personnes malentendantes, en tenant compte de la façon dont leur cerveau traite les sons et pas seulement de leur seuil auditif. Jeanne, merci beaucoup, Victoria, pour ces explications si claires et surtout, merci pour cette recherche qui s'annonce prometteuse pour notre communauté. Victoria, merci à toi pour ton intérêt. C'est toujours un plaisir de partager nos travaux, surtout quand ils peuvent vraiment faire une différence. C'était « Mieux comprendre le traitement auditif pour soutenir les personnes malentendantes », un texte de Jeanne Choquette, paru le 17 avril 2025 dans le magazine Sourdine.
La prodigieuse mission des chiens Mira, un texte commandité paru dans Le Devoir. Ils sont mignons, les chiots Mira qu'on croise ici et là, mais au-delà de leur petit foulard rouge, de leurs oreilles tombantes et de leur regard craquant, ces mini-boules de poils amorcent un exigeant parcours qui les mènera potentiellement à soutenir des personnes vivant avec un handicap visuel ou moteur, ou des jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme, TSA, dans leur quotidien. On ne les appelle pas « chiens d'assistance » pour rien. Préparer ces chiens pour la mission qui les attend n'est pas une mince affaire. Tout le processus est rodé au quart de tour, dans le respect des humains et des bêtes, et en fonction des besoins à combler chaque année. Ce savoir-faire est le résultat de plusieurs décennies de passion, de dévouement, de recherche et de travail inlassable. Mira, qui fêtait son 44e anniversaire le 26 mars dernier, est un modèle dans son domaine. D'abord premier centre francophone de formation de chiens guides au Canada, sous la direction de ses cofondateurs, Éric Saint-Pierre et Joanne Hallé, Mira a depuis élargi ses programmes en même temps que la demande s'est accrue et diversifiée au fil des ans. Depuis 2015, Nicolas Saint-Pierre poursuit la mission qu'ont si bien incarné ses parents. Cette idée que l'union entre l'humain et le chien peut ouvrir de nouveaux chemins, briser des barrières et offrir un avenir empreint de liberté demeure le socle de la mission de Mira. Depuis sa création, plus de 4000 chiens ont été remis gratuitement à des personnes en quête d'une meilleure qualité de vie et d'une plus grande autonomie. Former des chiens qui aident des humains. Bien qu'il soit prouvé qu'un animal de compagnie procure du réconfort aux humains, ce type de bienfait ne requiert que la présence de l'animal. Celui-ci n'a pas besoin d'aptitudes ou de compétences particulières. Or, comme l'explique le directeur général de Mira, Nicolas Saint-Pierre, les chiens guides et d'assistance travaillent. Leur mission est d'abord d'apprendre tout ce qu'on attend d'eux et qui varie en fonction des besoins spécifiques des bénéficiaires. Ensuite, ils doivent pouvoir le faire et le refaire sans que rien ne puisse les distraire, car la sécurité des personnes qu'ils assistent en dépend, précise-t-il. La naissance des chiens Mira n'est pas laissée au hasard. Puisque certaines caractéristiques et qualités exceptionnelles se transmettent de génération en génération, l'organisation compte sur son propre élevage pour la reproduction. Ainsi, près de 300 chiots au potentiel élevé naissent chaque année à la pouponnière de la Fondation. Après 9 semaines auprès de leur mère, les chiots entament leur période de socialisation en famille d'accueil. Au bout de 12 à 18 mois, ils sont prêts pour l'évaluation. Si tout est concluant, l'entraînement peut commencer. En fonction du tempérament et des aptitudes des chiens, ceux-ci sont dirigés vers le programme d'entraînement qui leur correspond le mieux. Mira offre 4 programmes. Chien guide, chien d'assistance à la mobilité, chien d'assistance pour jeunes présentant un TSA et, le plus récent, chien d'assistance en institution. Selon le programme pour lequel le chien est recruté et sa facilité d'apprentissage, il sera soumis à une période d'entraînement qui durera entre 3 et 8 mois. Les apprentissages sont nombreux et variés, et la réussite de l'entraînement est obligatoire pour que le chien passe à l'étape de l'attribution, où le bénéficiaire et lui apprennent à se faire confiance et à travailler ensemble. Le programme Chien Guide vise à former le chien afin qu'il devienne les yeux de la personne non-voyante. Le chien doit être capable de fournir plus de rapidité, de fluidité et de sécurité dans les déplacements en anticipant la présence d'obstacles. Le programme Chien d'assistance à la mobilité a été conçu pour aider toute personne ayant une déficience motrice, une déficience organique ou une maladie neuromusculaire. La majorité des bénéficiaires inscrits à ce programme se déplacent en fauteuil roulant, manuel ou motorisé. Le chien d'assistance doit alors faciliter l'autonomie des personnes handicapées en ramassant des objets sur le sol, en servant d'appui ou de support et en tirant un fauteuil roulant, par exemple. Dans le cadre du programme Chien d'assistance pour jeunes présentant un TSA, les chiens sont entraînés pour accompagner les bénéficiaires dans leur quotidien. Ils doivent apprendre à faire preuve d'un calme et d'une patience exemplaires. Les bienfaits de ces chiens sont nombreux. réduction du stress et de l'anxiété, amélioration de la qualité du sommeil, développement des habiletés langagières, augmentation des contacts sociaux, etc. Quant au programme « Chiens d'assistance en institution », les chiens sont spécialement entraînés pour travailler avec un professionnel dans un cadre clinique. Le chien doit être plus qu'une simple présence au sein de l'établissement. Il doit être en mesure d'effectuer des tâches spécifiques et qualifiées dans une variété de situations au sein du milieu, avec plusieurs clients. On retrouve notamment ces chiens Mira dans des centres de réadaptation physique, des centres jeunesse, des centres de soins palliatifs, des milieux judiciaires, scolaires, communautaires et plus encore. Un événement à ne pas manquer. Il faut une communauté engagée et des sommes d'argent considérables pour prendre en charge et former plus de 100 chiens guides et d'assistance par année. Rappelons que ces chiens sont remis gratuitement aux bénéficiaires. De sa naissance jusqu'à son attribution, un chien Mira représente un investissement moyen de 35 000 $ pour l'organisme, qui réussit ce tour de force principalement grâce aux dons du grand public, du secteur privé et d'activités de financement. Parmi ces événements, une journée porte ouverte, organisée tous les deux ans et présentée par Mondou, permet aux visiteurs de découvrir les installations à Sainte-Marie-Madeleine, de rencontrer les membres de l'équipe et de se familiariser avec les défis que doivent relever autant les bénéficiaires que leurs compagnons à quatre pattes. Les inscriptions pour l'événement du samedi 13 septembre 2025, c'est maintenant. C'était « La prodigieuse mission des chiens Mira », un texte commandité paru dans Le Devoir.
Une résidence qui change la vie de jeunes adultes autistes, un texte de Catherine Pellerin, paru le 12 mai 2025 dans TVA Nouvelles. Il y a maintenant plus de deux mois que la résidence Doris Dickner à Rivière-du-Loup a ouvert ses portes. Ce milieu de vie, qui héberge de jeunes adultes ayant un trouble du spectre de l'autisme, fait une réelle différence. Parmi les 8 résidents, Annabelle, 23 ans. Elle a enfin son chez-soi et vole maintenant de ses propres ailes. C'est d'être capable de faire mes choses moi-même quand j'en ai envie, lance la jeune femme, qui fait visiter avec fierté l'ancien presbytère qui a été complètement transformé. Ça faisait quelques années qu'elle démontrait un grand désir d'autonomie, explique sa mère, Nadia Vielle. C'est quand même une grande étape de passer de chez maman et papa à être dans un nouveau milieu, un nouvel environnement avec des nouvelles personnes, des nouveaux intervenants et des colocs aussi. C'est beaucoup de changements et je la sens tellement épanouie. Je suis tellement fière, poursuit-elle avec émotion. De les voir cheminer à devenir des adultes autonomes, fiers, avec leurs responsabilités, c'est vraiment magnifique, constate pour sa part Pascale Filion, la directrice générale de la résidence Doris Dickner. Le déménagement des résidents s'est fait en douceur, de façon progressive. Ils se sont tous très bien adaptés à leur nouvelle maison. C'était un peu stressant. Mais je savais que j'avais plein de monde qui allait m'aider, témoigne Annabelle. Les 8 colocataires ont leur chambre, qu'ils peuvent décorer à leur image. Ils sont autonomes, même s'ils demeurent entourés par des intervenants. Ils participent à des activités, font leur horaire et différentes tâches de la vie quotidienne, comme leur lavage. Chaque jour, ils prennent leur repas ensemble. Ils apprennent à se connaître et se respectent beaucoup. Le respect et l'amour sont là, et ça devient une famille, affirme Madame Filion. La résidence comprend notamment une salle multisensorielle, une salle pour faire du sport, un salon qui sert de cinéma, un local informatique ou encore une 9e chambre qui permet d'offrir du répit. Un centre de jour et un service de gardiennage sont aussi disponibles. Le projet de 5,4 millions de dollars a vu le jour après 9 ans de démarches. Cette résidence, qui est la seule du genre dans l'Est du Québec, vient répondre à un réel besoin. Ce serait bien qu'il y en ait plus, parce que les besoins sont tellement grands. Des personnes qui vivent avec un TSA, on en compte beaucoup, déclare la maman d'Annabelle. Le soulagement est grand également pour les parents qui sont convaincus que leurs enfants seront heureux et entre bonnes mains pour des années. C'était une résidence qui change la vie de jeunes adultes autistes, un texte de Catherine Pellerin, paru le 12 mai 2025 dans TVA Nouvelles.
L'Ordre des audioprothésistes juge la couverture des appareils auditifs discriminatoire, un texte de Pierre-Alexandre Bolduc paru le 13 mai 2025 dans Radio-Canada. L'Ordre des audioprothésistes du Québec dénonce le programme actuel de couverture des appareils auditifs par la Régie de l'assurance maladie, RAMQ, qui entraînerait un véritable problème de santé publique. Il faut être sourd des deux oreilles pour être admissible à une seule prothèse qui est couverte par la RAMQ pour les besoins qui ne sont pas au travail, lance le président de l'Ordre David Gélina. Au moyen du programme d'aide auditive de la RAMQ, Québec ne couvre pas le remboursement d'un deuxième appareil auditif pour les aînés et les personnes sans emploi. Nous, ce qu'on demande à la RAMQ et au gouvernement, c'est très simple. Si une oreille est sourde, on paye pour une prothèse, et si les deux oreilles sont sourdes, on paye pour les deux prothèses pour tout le monde, lance M. Gélina en déplorant que ce sont les plus vulnérables qui sont touchés en premier lieu. Selon l'Ordre des audiologistes du Québec, un adulte sur 3 de plus de 60 ans a des problèmes d'audition dans la province. Chez les plus de 85 ans, 80% souffrent de troubles auditifs. C'est une forme de discrimination et d'âgisme. Une citation de David Gélina, président de l'Ordre des audioprothésistes du Québec. Une paire d'appareils auditifs peut coûter de 3 000 à 8 000 $. Le programme d'aide auditive de la Régie de l'assurance maladie couvre une seule prothèse auditive pour les personnes de 19 ans ou plus ayant une perte auditive d'au moins 35 décibels dans leur meilleure oreille pour les fréquences exigées. Seuls les enfants, les personnes ayant une déficience visuelle ou les adultes de 19 ans et plus aux études ou au travail peuvent bénéficier de la couverture d'une deuxième prothèse auditive sur recommandation d'un ou d'une audiologiste. Le président de l'Ordre des audioprothésistes qualifie les critères d'admissibilité de la RAMQ de sévères. C'est le quotidien des audioprothésistes de dire à des gens qui sont rendus à obtenir des appareils auditifs qu'ils n'obtiendront aucune aide de la part de la RAMQ, déplore-t-il. Des appareils auditifs pour éviter des problèmes plus graves. David Gélina soupçonne que l'élargissement du programme de la RAMQ ne va pas de l'avant en raison de restrictions budgétaires gouvernementales. Dans un contexte de population vieillissante, il affirme que la perte d'audition peut mener à des problèmes de santé beaucoup plus aigus et coûteux pour l'État. La perte auditive, c'est le facteur modifiable numéro un en ce qui concerne la démence. Une citation de David Gélina, président de l'Ordre des audioprothésistes du Québec. Il y a le déclin cognitif, les chutes et l'impact économique direct sur la perte de revenus, dit-il. Les gens qui ont une perte auditive ont moins de revenus et ceux qui corrigent cette perte auditive vont corriger la perte de revenus. Le gouvernement évalue le programme. Par écrit, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec ne précise pas combien un élargissement du programme de couverture coûterait au Trésor public. on indique que des travaux sont effectivement en cours pour évaluer la modernisation du programme d'aide auditive et qu'il est prématuré de diffuser toute information budgétaire. Lors de l'étude des crédits budgétaires du volet pour les aînés, le 29 avril dernier, la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, avait indiqué être en train de regarder le programme actuel. Le président-directeur général de la RAMQ, Marco Thibault, a aussi précisé que des travaux étaient en cours, mais qu'il était prématuré de s'avancer sur une date de modification du programme de couverture actuel. C'était « L'Ordre des audioprothésistes juge la couverture des appareils auditifs discriminatoires », un texte de Pierre-Alexandre Bolduc paru le 13 mai 2025 dans Radio-Canada.
Se dépasser malgré les handicaps, un texte de Catherine Bouliane paru le 8 mai 2025 dans Le Quotidien. Athlétisme, saut en hauteur, lancer du poids, circuit fonctionnel et slalom en fauteuil roulant. Ce n'est pas l'action qui manque au Centre Mario Tremblay, alors que se tient la tournée À vos marques, un événement de compétition de sport adapté. Cette quatrième édition, présentée par l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean, regroupe plus de 180 participants, jeunes et moins jeunes. Elle vise à donner l'occasion aux personnes aux prises avec un handicap de bouger dans un cadre sécuritaire et adapté, tout en repoussant leurs limites. Pour les jeunes, on veut leur montrer l'importance de bouger, et cette habitude peut se poursuivre longtemps après. De pouvoir compétitionner amicalement, c'est aussi important pour eux. Ça leur permet de prendre confiance, de se dépasser, indique Manon Blackburn, de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Année après année, l'événement rejoint de plus en plus d'adeptes, alors que la première édition ne comptait que 80 participants. Il faut dire que l'offre de loisirs et d'équipements adaptés à la clientèle avec un handicap est beaucoup plus variée qu'autrefois. Ça s'améliore beaucoup. Nous avons une centrale de prêt d'équipement et de jeux adaptés qui permet aux gens de sortir bouger. Il y a un engouement, et ça s'améliore d'année en année, ajoute Manon Blackburn. La tournée, chapeautée par le mouvement Altergo, effectuera plusieurs arrêts à travers la province d'ici le mois de juin. Cette dernière sera également de passage au stade de soccer de Jonquière. C'était « Se dépasser malgré les handicaps », un texte de Catherine Bouliane paru le 8 mai 2025 dans Le Quotidien.